Nous arrivons au point 4. Rapport sur l'activité de l'UEM, de Metz Technopole ainsi que des SPL. Alors, vous avez eu ces rapports. Vous avez eu ces rapports. Si, si, vous avez eu ces rapports, oui, oui. Alors, il m'a semblé que j'avais entendu quelque chose, c'est pour ça que je n'avais pas rêvé. Donc, je vous propose de passer directement aux questions, de façon à nous éviter une lecture complète, aussi bien. Et puis, il y a ici suffisamment de personnes éclairées pour éventuellement répondre à vos questions, sachant que ce sont des points relativement. Il y a l'SPL Metz Métropole, il y a Metz Métropole, il y a l'UEM. On a des choses à dire sur pas mal de sujets. En même temps, je vous suggère d'être assez concis. Est-ce que j'ai ici la liste des gens qui sont inscrits ? Je ne la vois pas. Merci. Ah, mais si, la voilà. Excusez-moi. Il y avait donc. J'ai deux minutes qui ont été demandées par M. Aldrin. M. Rossion, pour le Rassemblement Bleu Marine, également a demandé à prendre la parole. Madame Isler-Béguin, pour le groupe Europe Écologie Les Verts, a demandé la parole. Et éventuellement, parce que Madame Zimmermann, peut-être, je ne sais rien. Ah non. Monsieur Lebeau. Alors, on va mentionner Monsieur Lebeau pour le groupe Union de la droite et du centre. Monsieur Lebeau, le voilà inscrit. Donc, Monsieur Aldrin.
Oui, rapidement, simplement pour rappeler,
Gens, oui.
Pour rappeler deux positions. La première, sur, puisqu'il s'agit ici de la SEM Metz Technopole, j'ai l'occasion de le dire en EOB, mais pour détailler un peu plus, cette SEM, c'est donc une structure avec des actionnaires privés et publics. Et à mon sens, c'est parfaitement le bon format pour l'agence de développement économique de notre agglomération. Et donc, c'est dans mon esprit cette fusion entre peut-être Metz Technopole et Metz Métropole Développement sous un statut juridique nouveau permettant donc de mixer des fonds publics et des fonds privés, des actionnaires publics et des actionnaires privés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais rappeler ce que j'ai dit lors du débat sur le Palais des Congrès. Je souhaiterais que dans le nom, puisqu'on a découvert le bâtiment, le choix de l'architecte et du projet retenu, je souhaiterais que dans le nom qui soit donné, il y ait cette connotation transfrontalière européenne, puisque le Conseil général de la Moselle s'étant retiré, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur le nom de ce Palais des Congrès. Voilà, merci.
Merci, M. Aldrin. Deux propositions très, très concrètes. M. Rossion.
Merci, M. le maire. Non, c'est Mme Grollet qui va intervenir.
Ah, pardon.
Madame Grollet. Le débat lui-même. Monsieur le maire, vous nous proposez ce soir de voter pour 4 rapports d'activité. Tout d'abord, celui de la SAEM-UEM. Nous le savons tous, l'UEM est la perle financière de la ville de Metz. D'ailleurs, c'est un des derniers vestiges d'avant l'ère socialiste que vous ne pouvez remanier à votre sauce, même si vous le tentez de le faire. Concernant l'UEM, sa situation financière est très positive. C'est pourquoi il serait peut-être utile de baisser la taxe sur l'électricité que vous avez portée au maximum. Un autre point nous dérange dans ce rapport. Il est rappelé la possibilité d'appliquer une hausse rétroactive sur le tarif réglementaire de l'électricité en fonction de la décision du Conseil d'État, actuellement en suspens. Alors, s'il s'agit des contrats professionnels, nous subissons encore une décision européenne totalement en dehors des réalités. Une fois de plus, ce sont les petites entreprises qui, en plus de la complexité de devoir se fournir sur le marché en cherchant le meilleur prix, seront impactées rétroactivement par un surcoût. Mais nous voterons pour ce rapport. Sur le rapport d'activité de Metz Technopole, le CESCOM remplit sa mission, et d'ailleurs il est rempli. La maison de l'entreprise progresse. En revanche, un point important témoigne d'un certain mépris ou d'une légèreté vis-à-vis des commerçants et des entreprises. On a acheté un immeuble Télis pour 4,6 millions sur 15 ans, mais vous ne payez pas les fournisseurs. La dette fournisseur s'élève à 223 000 euros. Comptez-vous attendre que ces entreprises fassent faillite afin de ne pas les payer ? Vous me direz, le dépôt de bilan des commerces est devenu une spécialité à Metz. Donc nous voterons contre ce rapport. Nous continuons dans le même registre avec la SAREM. On y retrouve d'autres excellents gestionnaires et le bilan est déficitaire. Cette fois, la dette fournisseur atteint 15 millions d'euros. Il n'y a vraiment aucun scrupule envers les prestataires. Ce n'est clairement pas une priorité. On vote contre. Et enfin, la SPL M3, pour le moment, congrès. Nous avons découvert hier le visuel du projet retenu. Et ce n'est pas parce qu'il y a un plaquage en pierre de Jaumont, reconstitué, les pierres, que cela va changer notre opposition à ce nouveau jouet d'enfant gâté grâce à l'argent des Messins. On y retrouve la marque de vos adjoints, spécialistes du bétonnage et de l'endettement pour le contribuable. Alors, je ne sais pas quel est le degré d'information des élus, mais on a appris à Metz Métropole que votre ex-adjoint et actuel conseiller Antoine Fonté va quitter votre cabinet pour une nouvelle mission concernant le Palais des Congrès. Monsieur Fonté est chargé de travailler, sera chargé de travailler en local au remplissage du calendrier des congrès et événements du Palais des Congrès. Quelle distorsion avec ce qu'on nous a vendu l'autre soir. Le spécialiste J.L. Evans, qui devait s'occuper de tout, ne serait pas capable de mobiliser le tissu local. Monsieur Rabu affirmait qu'il avait déjà 23 demandes de rendez-vous d'organisateurs de congrès avant même le vote et que dans son portefeuille, 249 manifestations devaient tourner entre les différents sites que gère J.L. Evans. Voilà décidément un projet fort mal engagé. Même s'il s'agit de Metz Métropole Développement, pour ce poste donc de Monsieur Fonté. Au-delà de l'inadaptation de l'emplacement, du sang et des larmes que vous nous promettez en termes de taxes et d'impôts pour financer votre palais, ce n'est pas le moment d'investir dans ce projet. Nous l'avons dit, nous le redisons. Et nous le redirons tant qu'il le faudra. Nous votons contre ce dernier rapport. Je vous remercie.
Merci, madame. Alors, monsieur Lebeau.
Maire, chers collègues, je voudrais revenir sur la situation difficile, voire très difficile de la SAREM. Et j'aurais aimé, parce que je lis, au vu de la situation économique de la SAREM sur l'exercice 2013 et les suivants, qui présentent des situations déficitaires structurelles. La société n'est plus en mesure de supporter la charge financière liée à la masse salariale actuelle. Elle a dû faire face à un licenciement économique de son directeur. C'est pas ce qui est écrit. Hein. Je dis licenciement économique. Hein, je dis donc le rapport est faux déjà, puisqu'il y est marqué. Ainsi procéder à un licenciement économique. Hein, page 4 sur 10. Donc aujourd'hui, on voit que la SAREM fait un déficit de 130 000 euros. Que pour faire face à ces difficultés financières très importantes, elle licencie son directeur. Et aujourd'hui, on peut se poser la question comment on est arrivé à cette situation assez catastrophique de la SAREM et quelles sont les mesures que le président va prendre pour améliorer. Est-ce qu'il va supprimer sa voiture de fonction? Est-ce qu'il a d'autres éléments pour améliorer que licencier économiquement les salariés? Un autre point. Or, SAREM, qui est quand même dans une situation catastrophique, on va parler de quelque chose qui marche beaucoup mieux, qui est l'UEM. Et je vous avais posé la question, lorsqu'on avait voté le dividende, c'est de savoir pourquoi les actionnaires ont décidé d'augmenter le dividende de 10 à 11 millions, c'est-à-dire une augmentation de 1 million d'euros, sachant que le résultat net comptable, lui, est stable, puisque le résultat net comptable n'a pas évoluer, c'est-à-dire que les actionnaires ont décidé de distribuer la totalité de la capacité bénéficiaire de la société. Donc, ce qui est un comportement d'actionnaire peu scrupuleux par rapport aux règles de bonne gestion qui laissent une partie en autofinancement au niveau de l'UEM. Deux questions qui apportent un certain nombre de réponses.
Merci. Monsieur Thierry Jean.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Personne n'a souligné, je suis désolé, je viens de renverser mon verre, donc c'est très sale. Voilà. Personne n'a souligné que, globalement, l'externalisation d'un certain nombre de fonctions dans des SEM avait pour résultat de gagner en efficacité. Et que je pense qu'on pourrait y réfléchir, y compris pour d'autres choses. Alors, deux, trois points, si je retrouve les notes que j'ai prises. Alors, comme j'écris au stylo à encre, je n'arrive plus à me relire, puisque tout cela est noyé. Bon, voilà. Donc, Voilà, bien. Non, merci, Béatrice. Bon, concernant la SEM Mestechnopole. La SEM Mestechnopole a effectivement acheté un immeuble. Je rappelle que ça a permis d'apporter une solution au premier contingent d'agents de l'INSEE qui sont à Metz et qu'effectivement on a acheté cet immeuble que 4,6 millions. En fait, de dire qu'on ne paye pas nos fournisseurs, on a un encours fournisseur qui est tout à fait raisonnable puisqu'il représente un peu plus de 30 jours d'achat. Donc on est tout à fait dans la norme, il n'y a aucun souci là-dessus. Concernant l'UEM, nous raisonnons avec nos associés depuis le départ. C'est un débat qu'on a tous les ans par rapport, comme il faut le faire, aux résultats consolidés et non pas par rapport aux résultats nets comptables. L'actuel pacte d'actionnaires prévoit que nous distribuons un maximum de 70% du résultat consolidé de l'exercice écoulé. Cette année, nous sommes bien en dessous des 70%, puisque le résultat de l'une des filiales du UEM, qui n'est autre qu'Ifluide, qui s'établit à un peu plus de 8 millions d'euros, sachant que UEM en détient 60%, donc ça fait 6 fois 8, 48, ça fait 4,8 millions qui viennent se rajouter au résultat net. Donc nous sommes extrêmement, quand je dis nous, c'est la ville de Metz et la caisse de dépôt, nous sommes extrêmement raisonnables dans notre politique de distribution de dividendes. Donc ça c'est donc ce point-là, ça ne change pas. Nous avons des données prévisionnelles qui nous permettront sans doute, qui verront augmenter le résultat de l'entreprise et qui permettront l'augmentation de la distribution de dividendes, aussi bien pour la Caisse des dépôts, qui est détenue par l'État français, que pour la ville de Metz. Et puis par ailleurs, puisqu'on a encore parlé de cagnotte, dans le débat précédent, nous avons demandé, le maire de Metz a demandé à ce qu'on évalue l'entreprise. Et il apparaît que la part de la ville de Metz a augmenté, donc sa valorisation a augmenté par rapport à l'origine de la constitution de la SEM en 2007, de pratiquement 120 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire que la cagnotte qui était de 45 millions d'euros, le maire de Metz l'a multipliée par presque 3. Donc, alors, évidemment, elle est peut-être plus physiquement, c'est pas une mallette dans son bureau, c'est un peu plus compliqué, mais le résultat, ce qui compte finalement, c'est le patrimoine de la ville de Metz, le patrimoine des Messins, eh bien, il a considérablement augmenté, quoi qu'il ait pu être dit pendant le débat d'orientation budgétaire. Voilà, je vous remercie.
Merci, monsieur le dirigeant. On reviendra sur cette information qui est extrêmement importante. Monsieur le premier adjoint, pour donner quelques informations sur la SAREM.
Oui, merci, monsieur le maire. Je conçois qu'on puisse s'émouvoir, mais il faut rester relativement calme. La difficulté financière passagère des 130 000 euros du déficit de la SAREM dans les frais de fonctionnement de la SAREM est due essentiellement à ce départ négocié dont je parlais, qui est en fait un départ négocié anticipé à la retraite de quelqu'un qui n'est pas le directeur. Alors c'est un abus de langage et je plaide, oui, non mais... On va amener des correctifs. Je rappellerai que la SAREM est une SPL et donc elle est à ce titre-là contrôlée par un certain nombre de conseils d'administration, un commissaire aux comptes, et qu'elle a même fait l'objet, vous le voyez, d'un rapport de la Chambre régionale des comptes qui est revenu complètement vierge par rapport à tout ce que vous pouvez dire sur... ce que vous pouvez imaginer de la SAREM. Donc, s'il y avait un vrai problème financier, comme vous le dites... arrêtez de m'interrompre sans cesse, monsieur Lebeau, je vous ai laissé parler.
Monsieur Lebeau, s'il vous plaît.
Vous êtes quand même extraordinaire.
Laissez répondre.
Bon, les 130 000 euros, je vous donne une explication. Les 130 000 euros correspondent exactement au départ négocié de M. Dorzinski, puisque son nom est émis, qui était quelqu'un qui était là depuis très longtemps à la SAREM, avec beaucoup d'ancienneté, qui a souhaité effectivement partir. Il se trouve qu'effectivement, ça correspond à une réduction de la voilure de la SPL et qu'aujourd'hui, avec 4 chargés d'opération et un directeur, par rapport aux actes que la SPL peut avoir, et il y a ici un certain nombre d'administrateurs qui peuvent le dire, on a eu des grandes discussions en conseil d'administration. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on est sur une taille de la SAREM au niveau des effectifs qui sont assez, je dirais, bien dimensionnés par rapport à la charge de travail. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça.
Merci.
Je rappellerai que...
Chut, s'il vous plaît.
Oui, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Merci.
Oui.
Chut. Oh, mais on vous a répondu.
Monsieur Lebeau,
calmez-vous. Calmez-vous.
Monsieur Lebeau, on vient de vous répondre. Alors, Monsieur Lebeau, on vous a répondu. Laissez un petit peu l'Assemblée tranquillement respirer. Vous posez une question, on vous répond. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la démocratie. Monsieur Lebeau, maintenant, c'est moi qui suis en train de parler. Je voudrais insister un petit peu sur les informations capitales que vient de donner Monsieur Thierry Jean. Capital. Ah oui, j'ai oublié Marianne. Alors, Madame Isler-Béguin, avec mes regrets, mes excuses, vous avez la parole.
Oui, mais j'hésitais entre laisser filer ou intervenir, mais quand même, je crois que c'est important et parce que ce sont des sujets qui sont très intéressants. D'abord, je remercie Thierry Jean qui a expliqué qu'effectivement, on était plus riche aujourd'hui avec l'UEM que lorsque vous avez pris la municipalité il y a 6 ans. Et il faut, c'est vrai, arrêter de parler de cagnotte perdue. Au contraire, elle a été agrandie. Donc aujourd'hui, je crois qu'on peut tous comprendre ça. Donc effectivement, c'est une belle société que nous avons là. Et je peux vous dire que pas mal de collègues dans d'autres villes nous envient cette société. Alors moi, je ne suis pas au conseil d'administration, mais je voudrais juste vous faire une suggestion, monsieur le maire, par rapport à la société, Energreen. Alors bon, c'est très bien d'avoir acheté une centrale à la phare Les Oliviers. C'est toujours un plus pour les Messins. Mais je pense qu'on pourrait aussi réfléchir à comment faire participer nos concitoyens à ce bonus qu'on amène quand même. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est dans le cadre de la loi, la future loi sur la transition énergétique, eh bien que l'UEM propose, par exemple, je ne sais pas moi, de mettre en place des panneaux photovoltaïques. Et là, je vous demanderai tout de suite d'en mettre sur les hangars à vélos, pour que les vélos qui fonctionnent à l'électricité puissent non pas fonctionner à l'électricité qui vient d'ailleurs, mais qui viennent, par exemple, de toits solaires. Donc ce sont des choses où on pourrait tout à fait innover et où notre belle société pourrait aider et montrer qu'elle est aussi prête à soutenir l'innovation ici même sur Metz, quoi, pour nous-mêmes, pour nos concitoyens. Ensuite, il y a les nombreux satellites. Bon, je fais partie d'un conseil d'administration, la SAREM. Bon, aujourd'hui, j'arrive à comprendre. Il faut aussi avoir le temps et se plonger dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Mais là, je me pose une question. Est-ce qu'à l'avenir, et dans le cadre de la mutualisation, qui est le mot à la mode, on ne pourrait pas essayer de voir si ce n'est pas possible de regrouper certaines structures, par exemple celle qui s'occupe ou va s'occuper d'un futur centre des congrès, et puis la SAREM, par exemple, parce que là, il y a aussi peut-être des économies à faire. Je ne vais pas parler d'économies au niveau de l'emploi, parce que l'emploi, c'est bien aussi de créer des emplois, mais mutualiser pour ne pas faire de gaspillage.
Oui, bien sûr.
Juste le dernier point par rapport à une... à une société où je suis aussi au conseil d'administration. C'est alors que je ne m'emmêle pas les pédales comme M. Thierry Jean. Alors, c'est la structure, société publique. C'est satellite CESCOM. CESCOM. Alors, à un moment donné, on dit qu'effectivement, ça ne marche pas trop bien. Voilà, je l'ai retrouvé. Activité de la société CESCOM. Parce que le taux d'occupation des locaux a été inférieur aux prévisions cette année 2013 par rapport à 2012. J'avais déjà attiré l'attention lors d'un conseil d'administration pour dire est-ce qu'effectivement sur la place publique et dans le cadre de Metz et de Metz Métropole, on n'est pas en train de mettre en place trop de structures et qu'elles vont être déficitaires et je ne pense pas du tout, monsieur le maire, au futur palais des congrès.
Merci. Merci, madame. Écoutez, je voudrais donner quelques éléments. D'abord, s'agissant de ce que vous proposez par rapport à la participation de la population, en quelque sorte aux actions liées à l'énergie au développement des énergies renouvelables. Je suis entièrement d'accord avec vous et effectivement, à l'UEM, on travaille à la possibilité d'offrir aux citoyens des occasions de s'investir dans la gestion des énergies renouvelables. Ça se pratique dans d'autres pays. En France, nous avons un lourd héritage un peu colbertiste et gaullien de grandes entreprises nationales qui gèrent l'énergie. Je pense à EDF et à Gaz GDF Suez. Et en réalité, dans d'autres pays, je l'ai vu quand j'ai été faire un colloque Metz-Stuttgart sur le thème de l'énergie, eh bien, en Allemagne, une grande majorité du capital des entreprises qui gèrent les éoliennes appartiennent à des particuliers. Et il y a également beaucoup d'investissements qui appartiennent à des particuliers dans le photovoltaïque. Et donc, on est en train d'y travailler et c'est une façon pour nous que les gens s'intéressent pas seulement au prix de l'énergie, mais également un petit peu à la façon dont elle est produite en s'y investissant pour ceux qui le peuvent. Et donc, c'est à l'ordre du jour, on y travaille. En second lieu, je voudrais vous dire, je vais revenir sur l'UEM, je voudrais vous dire que les SEM, Société de l'économie mixte, comprennent un acteur privé à côté de l'acteur public. Jusqu'à présent, l'acteur public devait être majoritaire. Il est possible maintenant d'avoir des SEM où on est, à partir du mois de juin, où on est des acteurs publics qui soient minoritaires. Et donc tout ça évolue. Ce sont des outils qui fonctionnent comme des entreprises privées et qui nous permettent d'avoir une gestion plus souple, par exemple avec les mesures qui ont été indiquées tout à l'heure, qui sont caractéristiques de ce qu'on peut faire dans le privé et de ce qu'on ne peut pas faire avec un fonctionnaire territorial. Et alors que les SPL sont constituées uniquement, c'est le cas du Palais des Congrès, de collectivités locales, puisque actuellement, la SPL Metz Métropole Moselle est constituée du Conseil Général, de l'agglomération Messine et de la ville de Metz. Je rappelle que le Conseil Général a proposé ses actions à vendre, mais qu'actuellement, il n'y a encore pas d'acheteur. Et donc, le Conseil Général est toujours actionnaire de la société publique locale qui a décidé la réalisation du centre des congrès que vous avez pu voir ce matin dans la presse. Troisièmement, je voudrais revenir sur... Monsieur Aldrin a dit des choses importantes sur MMD. Monsieur Aldrin, tout est possible dans l'évolution des structures. L'important, c'est ce qu'on y fait. Et vous verrez le budget de Metz Métropole Développement, puisque j'en suis le président. Et vous verrez aussi la façon de fonctionner et vous verrez les résultats parce que tout est transparent et les gens qui voudront avoir des informations, ils les auront. Madame Grollet siège, elle pose des questions à la commission économie, Madame Collin-Serlet aussi d'ailleurs. On sera complètement transparent et vous aurez tous les éléments. Maintenant, changer de structure, on peut toujours changer de structure. Mettre du privé, c'est le principe des SEM. On va chercher des solutions, par exemple, Monsieur Thiel a froncé les sourcils tout à l'heure par rapport à TCRM Blida. On a beaucoup, beaucoup de privés qui nous demandent d'entrer. en TSRM Blida et d'entrer dans le capital. Et donc on est en train de travailler à un sujet, parce que c'est un lieu non pas de culture seulement, certes c'est un lieu de culture, mais c'est surtout un lieu qui a une logique culturelle, une logique de développement d'entreprise dans le numérique, et une logique de développement d'entreprise dans les médias. Et on y travaille, ça intéresse énormément les acteurs économiques locaux, et vous aurez des nouvelles par la suite, on y travaille, mais c'est tout à fait le profil où il y a des privés qui peuvent s'investir dans des projets qui sont portés par les municipalités et qui intéressent les capitaux extérieurs. Le nom du Palais des Congrès, j'ai entendu, c'est le Centre des Congrès. Vous avez raison, il faut qu'on trouve quelque chose d'original. Si vous avez des idées, pourquoi pas, on est en train de le construire. Et c'est un point qui est tellement important pour l'avenir de la ville, ce Centre des Congrès, bien placé où il est, qu'on doit aussi chercher tous les atouts. Et j'ajouterai pour répondre comme ça, en général, qu'il est bien normal que tous les gens qui sont aussi autour de la table, on a déjà une cinquantaine d'acteurs qui ont accepté de se mobiliser dans un comité stratégique pour nous ramener des congrès. Parce qu'un des congrès, ça s'apporte par des connaissances. Quand vous avez un médecin qui est président des médecins urgentistes de France, eh bien, il peut vous aider à ramener un congrès. Voilà, quand vous avez un médecin qui est président maintenant des ophtalmos de France, j'ai vu ça dans le Républicain Lorrain il y a 4-5 jours. Écoutez, on prend contact avec lui, on lui dit que vous êtes d'accord pour être dans le comité stratégique, et c'est comme ça que ça marche. Et il y a des villes qui ont des congrès, et on a beaucoup de richesses humaines et de spécialistes de tas de domaines. On a, par exemple, le président du collégium des IUT de Lorraine, qui est un médecin, il est même dans notre assemblée. Et ben voilà, on peut imaginer un congrès lié à ces activités-là, etc. Et donc, je le dis ici, c'est pas parce que GLEVET est capable de ramener beaucoup de congrès que nous n'avons pas nous-mêmes à faire notre travail de notre côté, dans tous les domaines, dans le domaine de la culture, dans le domaine du médical, dans tous les domaines. Si, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui est médecin et qui est président de Famille de France, si jamais vous le connaissez, eh bien, on peut imaginer qu'on le mobilise pour nous aider à ramener un congrès dans ce domaine-là. Je prends des exemples pris au hasard, parce que quand on souhaite faire du bien à sa ville, on peut très bien se mobiliser. Et puis d'abord, c'est gratifiant pour tout le monde, y compris pour celui qui amène la manifestation. Maintenant, je voudrais revenir, pour terminer, sur l'UEM. L'UEM. Quand en 2007, pour ceux qui ont de la mémoire, la ville de Metz a vendu 15% du capital de l'UEM, la valeur de l'UEM a été évaluée à 300 millions d'euros. 300 millions d'euros évalués, et ça a été tellement évalué que quelqu'un, à savoir la Caisse des dépôts et consignations, a acheté, c'est pour 45 millions d'euros, 15% du capital. OK ? 45 millions d'euros ont été versés à la ville de Metz, et le capital a été... Il s'agissait d'un portage dans le but d'ouvrir plus tard le capital à une grande société d'énergie, c'est-à-dire à ce qu'une grande société d'énergie mette le pied durablement dans le capital de l'UEM, et l'idée était d'aller jusqu'à la moitié. C'est une idée qui était parfaitement défendable. Beaucoup de villes ont vendu comme ça, par morceaux, leur patrimoine et des régies municipales qui ont été vendues. Prenez l'exemple de Grenoble, prenez l'exemple de Strasbourg, c'est bien connu, à EDF. Eh bien, il n'y a plus de régie municipale et il n'y a plus rien. Nous avons pris la décision ici. Et j'ai pris cette décision, je voulais proposer de ne pas toucher aux 85% dont la ville de Metz dispose dans le capital de l'UEM, et qui représentait donc, au moment où je suis arrivé, 255 millions d'euros. Plus 45 égale 300, nous sommes d'accord. Eh bien, l'évaluation qui a été faite, et dont M. Thierry Jean vient de parler, qui porte la valeur de l'UEM à 438 millions, compte tenu des investissements que nous, actionnaires majoritaires, avec notre actionnaire minoritaire, la Caisse des dépôts, avons validé en conseil d'administration et dans les comités stratégiques, amène la valeur des 85% de la ville de Metz à 372 millions. 372 millions. Et au total, comme ça a été dit, donc, par Thierry Jean, nous avons engrangé, en l'occurrence, dans l'opération, nous avons engrangé au total 117,3 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 120, comme c'était indiqué. Je voulais vous dire ça parce que on va arrêter de nous parler de la cagnotte. En réalité, nous avons enrichi la ville avec des opérations. Il y a une vente qui a été faite en son temps, en 2007, parce que l'Europe a obligé mon prédécesseur à ouvrir le capital et à faire une SEB. On était trop important, on était trop important en chiffre d'affaires pour pouvoir rester en régime municipal. Ce qui avait un gros avantage, c'est qu'il n'y avait aucun impôt sur les sociétés. Tout tombait directement dans les caisses de la ville de Metz jusqu'en 2007. Et là, à partir de 2007, nous sommes une société et nous payons l'impôt sur les sociétés. Et malgré ça, vous avez vu les dividendes. Certains s'inquiètent de voir les dividendes augmenter. On les a augmentés d'un million l'année dernière. On pense encore les augmenter d'un million en 2015. Et tout ça est fait, et je vous assure, c'est le maire de Metz qui parle. S'il y a un endroit où je m'investis, c'est à l'UM. Et nous faisons une gestion en bon père de famille. En aucun cas, l'UM est fragilisé, loin de là, par la façon dont nous gérons l'UM. Et donc, soyez rassurés, cette valeur de 438 millions d'euros a été faite par des sociétés spécialisées. Encore, on a pris une médiane, hein, parce qu'il y avait des valeurs supérieures. Et donc, nous avons toujours, ici, à Metz, une très belle entreprise, une entreprise qui est propriété à 85% de la ville et qui vaut beaucoup plus cher qu'elle ne valait au moment où nous sommes arrivés ici. Et je suis heureux de vous le dire, ce n'est pas de la cagnotte, c'est du patrimoine. Et ce patrimoine, il est disponible pour les générations futures et pour les années qui viennent. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, on va voter. On va voter sur ces rapports. Il faut voter sur ces rapports. Hein. Il faut voter, oui. Alors, qu'est-ce qui est contre ?
Explication de vote, monsieur.
Alors, expliquez votre vote.
Premièrement, sur l'évaluation que vous donnez, je tiens à dire que les 300 millions qui ont été le prix convenu sur la valeur était un prix où il y avait une clause de revoyure et une possibilité de reprendre qui n'est pas la vraie valeur de marché normale, puisque la valeur de marché, si on se fixait sur la valeur d'une société comparable qui était Électricité de Strasbourg et qui est cotée, et si on prenait le price-earning ratio, on arrivait à 450 millions en 2007. Bien sûr que si, je vous invite à revoir les discussions qu'il y avait. Donc, il y a zéro création de valeur. Je tiens juste à le signaler. Et vous pouvez reprendre simplement le price-earning ratio et d'Électricité de Strasbourg de 2007.
Vous insultez mon prédécesseur.
Mais non, puisqu'il y avait une clause de revoyure. Il y avait une clause
de.
Non, j'insulte personne. Arrêtez de dire n'importe quoi, monsieur le maire, ça serait bien. Il y avait une clause de revoyure que vous m'avez transmise parce que j'ai saisi la CADA. Donc, on l'a et qu'il y avait une possibilité que s'il y avait un grand investisseur, ce que vous avez dit, on était indemnisé sur le montant complémentaire. Donc, il n'y a aucune création de richesse. Arrêtez de faire croire n'importe quoi aux médecins. Il y a simplement un maintien de la richesse. Donc, point final, ceci étant, sur l'UEM. Deuxième élément, je demande le retrait du dossier sur la SAREM.
Expliquez votre vote, s'il vous plaît.
J'y vais. Je demande le retrait du dossier de la SAREM. Alors, laissez-moi juste... Laissez-moi juste expliquer pourquoi je demande.
Vous avez une minute, ça y est, elle est passée.
Non, mais vous savez qu'on est toujours au tribunal administratif et que nous sommes en train de répondre, que le temps de parole, c'est 10 minutes. Donc, vous le connaissez très bien, puisque enfin votre avocat a daigné nous écrire. Donc, pour l'instant, le règlement intérieur.
Le tribunal administratif, il a tranché, c'est moi qui suis maire. Hein.
Oui, maintenant, mais d'accord, faites attention, vous êtes maire, mais pas encore dictateur. Hein. Voilà, juste maire. Voilà. Donc, juste que pour l'instant. Donc,
allez, donnez votre vote, s'il vous plaît, pour le groupe, là.
Non, mais je peux laisser. Mais je.
Ils vous attendent.
Mais oui, d'accord. Mais c'est la démocratie, mon cher ami. Je sais bien que tu apprécies l'attitude de ton maire. Donc, je demande juste le retrait du point de la SAREM, simplement parce que dans cette note, il est fait à plusieurs endroits indication d'un licenciement économique, pas dans un endroit, dans quatre endroits, et on a une information différente. J'aimerais que ça repasse en commission, qu'on ait la totalité de l'information sur ce point-là, parce qu'on nous dit qu'il y a eu un accord transactionnel. Il faudrait savoir pourquoi il y a eu cet accord transactionnel et si le coût en valait la chandelle. Donc, Si vous ne retirez pas ce point-là, nous ne participerons pas au vote sur ce dossier-là.
Très bien. Alors, qui est contre ? Allez-y, madame, essayez d'être plus court que votre prédécesseur, s'il vous plaît.
Mais je n'ai pas l'habitude d'être longue.
Je reconnais.
C'est simplement pour préciser que nous avons, j'ai émis tout à l'heure nos votes qui sont séparés, donc pour l'UEM et contre les trois autres.
D'accord, on va refaire un vote séparé alors. On y va. Alors, pour l'UEM, qui accepte le rapport sur l'UEM ?
Accepte.
Oui. Des oppositions ? Il n'y en a pas. Alors, on peut faire les... Alors, on va faire la SAREM. Qui rejette le rapport sur la SAREM ? Ça va être plus simple. 1, 2, 3, 4. Bon. Qui s'abstient ? Il n'y en a pas.
Si, la 2.
Ah, deux abstentions. Et ben voilà. Et donc, les autres sont pour ? Oui, la SAREM, oui. Abstention, d'accord. Abstention. Et vous, monsieur Lebeau, alors vous faites quoi ? Vous ne prenez pas part au vote, d'accord. Alors il y a les abstentions, il y a. Vous notez tout, hein. Voilà. Et donc, et les autres sont pour, je suppose. Voilà, c'est fait un vote très clair. Et pour. Alors il nous reste quoi ? Il nous reste CESCOM. Y a-t-il des comptes ? Oui, il y a des comptes là-bas. Hein. Alors il y a 4 comptes pour le CESCOM.
Metz Technopole,
oui, mais c'est ça, oui. Metz Technopole. Et qu'est-ce qui reste ?
Abstention,
il n'y en a pas.
Centre des congrès.
Et le centre des congrès, alors ? Qui est contre ? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient ? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, les autres sont pour. Ben, voilà, tout est adopté. Je vous remercie.